bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, peut-on se réconcilier avec la démocratie? On en parlera avec notre invité, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, qui, dans son nouvel ouvrage « Comment gouverner un peuple roi » qui paraît chez Odile Jacob, envisage les différents modèles de démocratie, se demande ce qu'est un gouvernement et surtout ce qu'est un peuple. Nous en parlerons ensemble à partir de 12h55. Mais d'abord, il voyage loin et brouille les pistes. Depuis 40 ans, il photographie l'infiniment petit ou le démesurément grand. Une contemplation où des visages surgissent, parfois des paysages. Membre du collectif Tendance Floue, Alain Villaume est notre invité à l'occasion de l'exposition Mélancolie des collines, à voir jusqu'à la fin de l'année au Théâtre de la Colline à Paris. Et pour la monographie Coordonnées 72-18, parue chez Xavier Barral ce mois-ci, il est surtout à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Les photographies de Villaume semblent être parvenues jusqu'à nous, encore marquées par les traces de ses voyages. Elles surgissent et des brouillages du temps et de l'espace, comme ces moments d'écoute parfaite, échappés des parasites d'une radio. Il y a tant de voix à écouter. Certaines sont lointaines, d'autres proches et émouvantes. D'autres brouillés, d'autres encore clairs et nets. Voilà ce qu'écrit à son sujet le commissaire d'exposition David Chandler en introduction de Coordonnées 72-18. Prince of Darkness, Dream Sequences, 1996, John Carpenter. Bonjour Alain Villaume.
Bonjour Olivier.
Coordonnées 72-18 regroupe environ 300 monographies documentaires, des images sans légende qui ne dictent pas un sens au regard ni à la compréhension d'ailleurs, des énigmes, à commencer par le titre. Alors à quoi fait-il référence? Est-ce que c'est une sorte de latitude imaginaire, ce 72-18?
C'est effectivement, je voulais qu'il y ait un titre qui se réfère à la géographie. Et avec Xavier, on en a cherché, j'en ai proposé des dizaines.
Xavier Barral, votre éditeur.
Xavier Barral, oui, pardon. Et en fait, on a simplement décidé de rester sur une coordonnée effectivement imaginaire, puisque 72, c'est la date à laquelle a été prise la première photo qui est dans le livre, 1972, et 2018, c'est la dernière.
Voilà, un début et une fin pour vous situer dans cette géographie intime aussi à vous, Alain Villaume. La tête dans les nuages, vous captez par exemple le vol d'un oiseau entre deux gratte-ciels à Busan, en Corée du Sud. Droit devant, vous saisissez un escalier en colimaçon en bord de mer à Santa Cesare en Italie. Une borne qui indique aussi la direction du Moonland en Inde, dans un paysage désertique de roches et de cailloux. Quel statut vous donnez-vous à toutes ces images, les vôtres, Alain Villaume?
En fait, c'est un peu des témoignages comme quoi ce que j'ai vu, je ne l'ai pas rêvé. Et ça me sert à me maintenir en équilibre sur l'horizon. Et c'est vrai que c'est des images qui sont des restes de voyage où des fois je ne savais pas très bien où j'allais, où j'étais, mais où je tenais un espèce de fil rouge. Qui souvent a été de vouloir se rendre au bout du monde, ce qui est une idée un peu naïve, mais qui, en s'aidant de la géographie, arrive à fonctionner. Parce que quand on regarde une carte, on regarde où est le bout de la carte, et c'est des endroits où j'aime bien aller. D'autant plus que quand on est photographe, une question qui se pose tout le temps, c'est d'être au bon endroit. Et en fait, quand on est au bout du monde, on est au bon endroit, parce qu'il n'y a personne, il n'y a nulle part d'autre où aller. Et c'est un état d'esprit qui me convient.
C'est-à-dire que ça vous arrive quand même assez souvent de vous frotter les yeux comme un enfant, de les fermer, de les rouvrir, de les fermer, de les rouvrir, et de vous dire, il faut que je photographie ça, sinon personne ne va me croire en rentrant que j'ai vu ça, que ça existe vraiment quelque part.
C'est assez ça, ouais. C'est en même temps ça, de dire effectivement que ça existe, mais c'est aussi de se dire... en fait, ça n'existe pas tant que ça, parce que la photographie, on croit toujours que ça dit le réel, parce que ça fait 150 ans ou un peu plus que ça existe, et on sait toujours, on a toujours assigné la photographie à témoigner de ce qui existe. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait. Sauf que des fois, elle se trompe, ou le photographe se trompe, ou le regardeur de la photographie se trompe, et se doute cette marge qu'il y a entre ce qui existe et ce qu'on imagine. C'est quelque chose que, je pense, la photographie représente le mieux. Cette friction entre le réel et la fiction. Maintenant, avec le numérique, la photographie commence à se détacher de cette assignation à dire le réel. Et on commence à accepter le fait que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on imagine, ou que ce qu'on imagine n'est pas ce qu'on voit, sans que ça soit non plus de la fake news.
De la désinformation, de la mauvaise information, oui. De l'information fausse. Ce doute, il profite aussi de cette tendance au flou, pour reprendre le nom du collectif auquel vous appartenez. Il profite aussi de ce brouillage du temps et de l'espace, comme l'écrit à propos de vos photos David Chandler dans le texte présent dans cette monographie que je citais en introduction. Il y a quand même une part de réel, et vous le dites. Est-ce que ça vous va si on dit de vos photos qu'elles sont comme une lecture à voix basse du réel ?
Oui.
Vous ne criez jamais.
Non, non, le silence, c'est quelque chose qui est très important, qui a toujours été vraiment... Surtout quand on voyage, on a, en plus dans des endroits qui sont pas forcément très peuplés, on a besoin de silence. Enfin, moi, en tout cas, le silence, c'est une denrée que je recherche, qui devient de plus en plus rare, et que je chéris de plus en plus. C'est pour ça que j'adore la radio, c'est que la radio, on est face au silence des paroles. Et ça, c'est quelque chose qui me va bien.
Mais le silence, on a même l'impression qu'il est très imposant sur la plupart de vos photos. Si on prend juste celle qui fait la couverture de cette monographie qui paraît aux éditions Xavier Barral, vous êtes où à ce moment-là ?
En vrai ?
Oui.
Je suis sur un pont qui surplombe la Neva. Et la Neva, c'était en hiver, et la Neva était gelée. Et c'était très impressionnant parce que j'ai vu ce petit personnage marcher sur la berge, et à un moment il a posé un pied sur la glace. Et la glace fracassée comme dans un tableau de Caspar David Friedrich, et il a non seulement fait un pas, mais il en a fait un deuxième, et heureusement j'étais là. J'ai pu le photographier, mais sans vraiment me rendre compte de ce que je voyais. J'ai vu ce petit bonhomme, et c'est après, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que ça représente, ce que ça veut dire sur l'hésitation, sur l'avenir. Pour moi, c'était une très belle métaphore de l'avenir, et de la prudence avec laquelle il faut l'aborder, parce que tout peut se fracasser au pas suivant, quoi.
Est-ce qu'il y a eu une rupture du silence quand il a posé son pied sur la glace, si tant est que l'hiver là-bas soit silencieux?
L'hiver est silencieux parce que quand il y a de la neige, ça étouffe les sons. Et j'ai rien entendu. Donc je pense que la glace devait être assez solide pour pas que ça craque.
Alain Vuillaume, vos photos ne sont jamais ostentatoires, plutôt méditatives, suggestives. Cette autre manière de regarder le réel est assez naturelle. Elle est peut-être aussi parfois recherchée. Est-ce que vous avez dû beaucoup le travailler, ce regard ? Ou est-ce que ce sont ces paysages, cette nature, ces hommes perdus dans ces grands espaces qui se sont aussi imposés à vous ?
Ouais, c'est sûr que moi, je suis vraiment très intuitif. Je réfléchis.
Vous ne mettez pas en scène ?
Non. De temps en temps, ça m'est arrivé de rajouter, par exemple, dans le livre, il y a un petit bonhomme que j'ai rajouté, mais on voit tout de suite qu'il est rajouté, et c'est la seule photo, et c'était irrésistible, donc j'ai rajouté un petit bonhomme. Mais sinon, quand on est dans l'état d'esprit particulier de faire des images souvent loin, ça tombe assez souvent tout seul, quoi. Un photographe, s'il a pas de chance, il peut tout de suite retourner se coucher.
La photographie est-elle pour vous une fascination ? Je vous propose d'écouter les mots de Roland Barthes à ce sujet en 1977.
La photographie, c'est ce qui est fascinant. Or, la fascination, c'est extrêmement difficile à analyser parce que c'est très tautologique. C'est-à-dire que ce qui fascine, finalement, à la limite, on ne peut rien dire d'autre que ça me fascine. On ne peut pas développer, on ne peut pas analyser ce qu'est une fascination. Et alors c'est pour ça que la photographie tombe un peu hors langage. Comme elle est un objet de fascination, on ne sait pas très bien qu'en dire. Je dirais que la fascination de la photographie, c'est toujours pour moi la fascination du « ça a été ». Cela a été. Donc finalement, ce qui me fascine dans la photo, et vraiment les photographies me fascinent, c'est quelque chose où la mort a son mot à dire, certainement. C'est peut-être une fascination un petit peu nécrophilique, pour dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas ? C'est une fascination de ce qui a été mort, mais qui se représente comme voulant être vivant. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, en commençant, que l'image était douloureuse en un certain... La photographie est mais douloureuse, enfin. Les plus belles photographies me sont douloureuses, parce que je dirais que l'image, c'est toujours un petit peu ce dont je suis exclu.
Ah, et vous, qu'est-ce qui vous fascine, Alain Villaume ? Est-ce qu'il y a de la douleur dans chacune de vos photos ?
Si je peux contrarier un petit peu...
Roland Barthes, allez-y.
Je vais en profiter. Pour moi, il n'y a pas du tout de « ça a été ». C'est-à-dire que, effectivement, ça a été parce que je l'ai pris il y a quelque temps, ou il y a longtemps. Mais ce que ça veut dire, si une image nous parle toujours, c'est que c'est pas « ça a été », c'est que c'est toujours, et que les images les plus prégnantes, pour moi, c'est des images qui parlent d'aujourd'hui et voire de demain. Et le ça a été qui disparaît, c'est juste de la mémoire, ça appartient à ce qu'on ne voit plus. Pour moi, une image, ça appartient et ça doit résonner de l'actuel, du monde tel qu'il est maintenant.
Et en même temps, il y a toujours quelque chose de très intemporel dans vos photographies.
Bien sûr, mais ça n'empêche que s'il n'y avait que ça, je ne les retiendrais pas. Je pense qu'elles seraient trop détachées du réel. Moi, j'ai besoin que mes images résonnent avec aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui touche aux catastrophes environnementales en ce moment sont des événements qui me ramène toujours aux images de nature que j'ai faites. Et parce que sans ça, ça serait juste des jolies photos de nature. Et là, le fait de savoir quelles sont la chambre d'écho de ce qui se passe, ça me permet de les montrer.
Est-ce que vous diriez de vous que vous êtes, Alain Villaume, un contemplatif contrarié ? C'est-à-dire que vous êtes sans cesse rattrapé par la réalité, par la solitude des hommes, par l'épuisement de la nature, par la fragilité ou la vulnérabilité des deux d'ailleurs.
Oui, je crois que c'est une assez bonne définition. Je suis, je pars très vite en contemplation. Je suis très vite absorbé par ce que j'ai sous le nez. Et en même temps, effectivement, je suis tout le temps préoccupé. La mélancolie, il paraît que ça a à voir avec la bile. Je me fais de la bile, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. C'est aussi ce que dit de vous David Chandler, le commissaire d'exposition, critique d'art, qui évoque votre profonde inquiétude intérieure face à l'état du monde. Tout ce que vous avez vu en 40 ans de voyage ne vous a pas rassuré ?
Ben malheureusement non, et malheureusement ça ne s'arrange pas, donc
ça va de mal en pied.
Ouais, je trouve. En tout cas au niveau de
ça tient à quoi ?
Ben ça tient à la pente sur laquelle on glisse. Tout ce qui fait qu'on devrait se contenter de ce qu'on a, et Dieu sait si en Occident on a énormément, ne suffit jamais. Et c'est vrai que quand on a un peu l'habitude de voyager, qu'on voit commencer par exemple ici, on se dit mais pourquoi se plaindre de tout ce qu'on a ici ? Et en même temps, quand on est ici, on se dit mais c'est vrai que c'est pas possible de continuer à se faire balader comme ça par les gouvernements, enfin les hommes politiques. Donc on est sans cesse tiraillé par cette inquiétude. Enfin, moi je le suis. Je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et en même temps, ça marche toujours pas.
Et vous le voyez à quoi dans ce monde que vous arpentez ? à tout, ça tient, ça se retrouve dans chaque recoin d'un paysage que vous abordez.
Bah, disons que ça tient au fait que je crois que je vois le monde dans une lumière tamisée. Il n'y a pas de coup de projecteur sur ce que je vois. Il n'y a pas ces coups de projecteur que donnent les sociétés pour dire voilà, il faut regarder ça et pas s'occuper du reste. Moi, je reste dans une pénombre et cette pénombre, du coup, laisse visibles les craquements que normalement on ne devrait pas voir éblouis par la société du spectacle. Et ça, c'est je pense, le travail de l'ombre permet ça.
D'où votre relation aussi au noir ou au noir et blanc. Est-ce que vous diriez, comme le photographe français d'origine slovène, Claudije Sluban, que le noir, en fait le noir, what else, quoi d'autre?
Pourquoi en noir et blanc? Je ne vois pas d'autre manière de le faire. Vous connaissez d'autres manières de photographier?
Paraît-il qu'il existe la couleur.
Bon.
Non, mais...
C'est une manière de voir, je pense. Moi, plus que noir et blanc, c'est en gris, je pense. Et entre cette gamme qu'il y a entre le noir et le blanc, il y a toute une gamme de gris, tout un modelé de gris. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je ne cherche pas à démontrer quelque chose. Je ne cherche pas à donner une vision, on va dire, qui l'emporte sur une autre. C'est vraiment une manière de donner à voir quelque chose, surtout que j'ai ressenti. Et à partir de là, le fait que je sois sur un de ces sept pays autour de la mer Noire, de la Turquie à la Russie, c'est à chaque fois une plongée dans ces pays. Mais il n'y a jamais une sorte de démonstration sur une certaine qualité de ce pays qui serait ou économique ou architectural ou quel que ce soit. C'est vraiment, il y a une rencontre à chaque fois.
Le pourquoi en noir et blanc sur cette manière de voir presque évidente, c'est idem pour vous, Alain Villaume?
Oui, c'est-à-dire que le noir et blanc, c'est ce qui vient en premier. Le fait que je n'aime pas la lumière forte encourage aussi ça, évidemment. La pénombre, c'est quelque chose qui est très révélateur. Et en même temps, c'est vrai que quand la couleur me saute à la figure, elle est toute puissante. Donc il y a quelques images couleurs dans le livre qui sont un peu des souvenirs de la beauté du monde. Pour moi, la couleur, c'est un peu ça.
Et on va s'y rendre avec vous, Alain Villaume. Je rappelle que vous êtes photographe, notre invité jusqu'à midi et demi à l'occasion de la parution d'une vaste monographie publiée par les éditions Xavier Barral, qui sort ce mois-ci, coordonnée 72-18, et d'une exposition dont on va parler, Mélancolie des collines, c'est à voir au Théâtre de la Colline à Paris, jusqu'à la fin décembre. Paris, Texas, sur une musique de Ry Cooder, Wim Wenders, un cinéaste avec lequel vous avez, semble-t-il, quelques affinités. Vous parliez de la couleur qui surgit parfois, rarement c'est vrai, dans vos photographies. Il y a cette très belle série en couleur, Texachrome, réalisée dans l'ancienne ville minière de Terlinga, au Texas, où on peut voir sur une des premières photos qui apparaît, ce coucher de soleil multicolore avec au premier plan un cheval non illuminé. C'est une comment dit-on ?
C'est un cheval. D'abord, il faut dire qu'il est ailé. C'est un cheval ailé et il est. C'est un cheval fait en fil de fer.
Avec une guirlande lumineuse autour.
Une pauvre petite enseigne avec dessinée avec une guirlande lumineuse bleue qui se détache sur ce coucher de soleil. Et c'est vrai que c'est très étrange parce que je suis arrivé dans cette ville fantôme du bout du Texas par hasard en roulant. Et en rentrant en France, après, je me suis rendu compte que Terre Lingua, c'était un des endroits où Wim Wenders avait tourné une séquence de Paris, Texas. Et c'est drôle parce que c'est vrai que j'ai une espèce de relation avec les premiers films de Wenders, qui, surtout, l'état des choses, ça a été un film qui m'a bouleversé en noir et blanc. Et les seules photos que j'ai qui sont directement reliées à Wenders, c'est des photos en couleur.
Quel voyageur vous êtes, Alain Villaume ?
Quand c'est un voyage...
Ils sont toujours solitaires, vos voyages ?
Non, je voyage avec ma compagne très souvent. J'ai très longtemps voyagé seul. Et maintenant, je voyage avec elle avec le même bonheur que quand je voyageais seul. Et pour dire que c'est pas facile. Donc, c'est une voyageuse aussi qui aime autant que moi se déplacer sur la carte.
Et elle ne vous distrait pas.
Non,
elle ne vous empêche pas de poser votre regard tout autour.
Non.
Vous pouvez travailler même à deux.
Ouais, mais souvent on n'est pas au même endroit. Dans un désert, on est rarement au même endroit. Donc ça n'empêche pas du tout de d'embrasser l'horizon.
Vous parliez de ces bouts du monde, Alain Villaume, mais quand vous rencontrez un barrage, une frontière, un mur, ça vous arrête ? Vous faites demi-tour ? Ou vous les franchissez ?
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma politique du voyage, parce que effectivement, une frontière, c'est un bout du monde, mais c'est un bout du monde féroce, c'est un bout du monde violemment imposé par les hommes à d'autres hommes. Donc, c'est des lieux de tension extrêmement forte, et c'est vrai que le contraste entre ces bouts du monde réels où on est face à l'infini et ces bouts du monde humains où on est contraint, cette friction-là est, je trouve, fondamentale pour regarder un peu mes images, cette tension entre les deux.
Dans cette monographie qui regroupe quelques-unes de vos séries emblématiques, on retrouve notamment De Finibus Terrae sur la nature sauvage, de la mer du Nord à l'Himalaya, la série de portraits aussi Les Invisibles, ou encore des séries plus historiques, ou disons plus ancrées dans une géographie ou une temporalité, comme Écho de la poussière et de la fracturation, réalisée entre 2012 et 2013 en Afrique du Sud et présentée il y a 3 ans au Festival itinéraire de photographes voyageurs à Bordeaux, après avoir été présentée à Arles. C'était en 2013. Cette série-là, par exemple, c'est partie de quoi ? D'une commande ? D'une envie à vous de retourner sur cette terre-là ?
Non, c'est parti d'une commande que je pensais au départ tout à fait plaisante, parce qu'elle m'envoyait dans un désert, donc j'étais ravi. Et c'était dans le cadre d'une mission photographique franco-africaine du Sud, sud-africaine, et on devait travailler par paire de photographes de chaque pays sur un enjeu social ou politique du territoire qui traverse complètement toute l'histoire de l'Afrique du Sud. Et moi, on m'avait assigné le désert du Karoo, donc grand bonheur, et en plus la problématique de l'exploitation du gaz de schiste dans cette région-là. Et il faut savoir que l'exploitation du gaz de schiste, ça demande entre autres des milliards et des milliards de litres d'eau. Donc imaginez qu'un tel événement va arriver dans un lieu quasiment désertique, c'est vraiment une fin du monde, quoi. Et donc je suis parti là-bas en tout content, mais avec un dernier point d'interrogation, c'est-à-dire que avant de partir, j'avais appelé des gens pour avoir des infos sur ce gaz de schiste et sur comment ça se passait. Et j'avais eu des militants, des activistes environnementaux, avec qui on a parlé du sujet, de la gravité du sujet, et chaque fois que je leur disais, bon bah d'accord, mais je vais où ? Et ils me disaient, ah bah c'est bien, parce que si vous venez à telle période, il y a des très belles fleurs qui poussent à ce moment-là, bleues, vous verrez, c'est merveilleux. Je dis, ok, mais... Il y en a un autre qui m'a dit, ah ben là, c'est génial, il ne faut pas rater, il y a le musée des éoliennes, c'est un truc terrible. Je dis, ouais, ok, mais pour le gaz de schiste, je vais où ? Et en fait, personne ne m'a rien dit, parce que il n'y avait pas du tout de site d'exploitation, puisque c'était une menace. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, j'avais la peur au ventre, littéralement, parce que je ne savais pas quoi faire. On m'envoyait là-bas, et j'étais là-bas complètement démuni, dans une voiture, avec une assistante qui conduisait la voiture, et dont la première question a été, on va où ? Et je lui ai dit, je ne sais pas, parce que on m'a rien dit.
Et du coup, vous avez photographié quoi ?
Et du coup, les deux premiers jours, j'ai rien photographié. Et dans le peu que j'ai photographié, un soir, il y avait un 4x4 qui passait sur une piste au loin, avec la lumière à contre-jour, ça faisait un sillage de poussière tout à fait décoratif. Et c'est un des trucs que j'ai pris parce que c'était un truc à voir. Mais j'étais toujours, pour moi, à côté de la plaque. Et le lendemain, quand j'ai vu sur la carte mémoire de l'appareil ce nuage, je me suis dit, mais en fait, je suis venu là pour photographier quelque chose d'immatériel, le gaz, qui est une menace. Et pour moi, j'avais cette image de nuage qui était devenue la métaphore parfaite de ce que je voulais faire.
Et puis, il y a l'Inde aussi très importante dans votre parcours, l'un de vos terrains de recherche photographique. Vous avez été l'un des commissaires du programme India, initié à Arles en 2007, directeur photo de India Photo Now en 2008. Ça, c'est un pays qui est central dans votre photographie et dans vos travaux. Est-ce que vous avez un lien particulier avec le théâtre, avec cette scène qu'est le théâtre ? Pourquoi vous avez choisi d'investir le théâtre de la Colline ?
Parce que d'abord, c'est Wajdi Mouawad qui me l'a proposé. Parce
et
que,
ça ne se refuse plus, du coup, après. Hein.
C'était un énorme cadeau. On a travaillé ensemble sur les images pour la communication. Et comme ça se passait très bien, il m'a proposé un peu plus. Il m'a dit, mais si tu veux, fais une expo au théâtre. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de lieu d'expo. Je ne peux pas te proposer de faire une expo. Par contre, on peut faire une installation. Et je me suis dit, je vais en fait faire une installation d'images qui fait que Wajdi puisse mentalement investir ce lieu qui n'était pas en fait un lieu où il travaille, puisque c'est le café, le restaurant, les lieux publics. Et je me suis dit, je vais peut-être lui permettre de s'approprier ces endroits qui dans lesquels il travaille pas, avec mes images.
Et au public qui peut passer et aller voir dans le ventre du théâtre de la Colline jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 28 décembre, votre installation, exposition Mélancolie des Collines. Je rappelle le titre de la monographie qui est publiée chez Xavier Barral ce mois-ci, coordonnées 72, première photographie, 18, dernière photographie prise. Merci beaucoup à vous, Alain Villaume, d'être passé par nos studios.
Merci
beaucoup.
À vous.